Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient sur la disparition à l'âge de 100 ans de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar, qui a eu un impact profond sur le monde. Le cinquième secrétaire général de l'ONU a été salué pour sa capacité à favoriser le dialogue et à diriger l'organisation au cours d'une décennie mouvementée. Ce diplomate, avocat et professeur, originaire du Pérou, a été le premier et le seul ressortissant d'un pays d'Amérique latine à occuper le poste le plus élevé de l'ONU à ce jour. Le 4 mars dernier disparaissait donc Javier Pérez de Cuellar, cinquième secrétaire général des Nations Unies, qui a dirigé l'organisation mondiale de 1982 à 1991. Né à Lima, au Pérou, le 19 janvier 1920, Javier Pérez de Cuellar avait été nommé à la tête de l'ONU après 42 ans de service diplomatique. Au cours de sa longue carrière, en plus d'être ambassadeur de son pays en Suisse ainsi qu'en Union soviétique, en Pologne et au Venezuela, Javier Pérez de Cuellar a occupé de nombreux postes de haut niveau au ministère péruvien des Affaires étrangères, notamment celui de représentant permanent auprès des Nations Unies à partir de 1971. Au cours de son mois à la présidence du Conseil de sécurité en juillet 1974, il a réussi à gérer la crise à Chypre. Un an plus tard, il était nommé représentant spécial du secrétaire général dans l'île pour 2 ans, puis est devenu chef des affaires politiques de l'ONU et ensuite représentant spécial de l'ONU en Afghanistan. Pour nous parler de Javier Pérez de Cuellar, j'ai joint Pierre Fabian, ancien fonctionnaire au département de l'information des Nations Unies. Pierre Fabian qui a travaillé à Paris avec l'ex-patron de l'ONU pendant 4 ans, de 1993 à 1997, alors que celui-ci, retraité actif, présidait la Commission pour la culture et le développement. Pierre Fabian, bonjour.
Bonjour.
Pierre Fabian, vous êtes donc un ancien fonctionnaire des Nations Unies et vous travaillez à l'époque donc au département de l'information et à ce titre vous avez été dépêché donc auprès de la Commission pour la culture et le développement avec comme président Javier Pérez de Cuellar, le diplomate péruvien qui est décédé mercredi à Lima. Donc vous avez travaillé avec Pérez de Cuellar de 93 à 97. Alors première question, Pierre Fabian, qui était Javier Pérez de Cuellar?
Pérez de Cuellar était un humaniste extraordinaire. C'est peut-être ce trait de sa personnalité que j'ai apprécié le plus pendant les 4 années que j'ai passées avec lui. En plus, c'était un homme, si vous le connaissiez un peu mieux, c'était quelqu'un de réservé en apparence, mais une fois qu'on le connaissait un peu mieux, il avait un sens extraordinaire de l'humour et c'était quelqu'un qui ne se prenait pas trop au sérieux non plus. Je dois dire que j'ai gardé d'excellents souvenirs de mes 4 années passées avec lui au siège de l'UNESCO à Paris.
Alors on le rappelle, le contexte de ces années, donc de 1993 à 1997, Javier Pérez de Cuellar avait été donc secrétaire général de l'ONU de 1982 à 1991, donc il avait quitté ses fonctions à New York et il était à Paris pour présider cette nouvelle commission pour la culture et le développement. Alors comment ça s'est passé? Comment ont été vos premiers contacts? Vous avez été envoyé par New York pour l'aider, notamment pour les médias?
Alors les Nations Unies ont établi cette commission conjointement avec l'UNESCO. Et donc, le siège était à l'UNESCO et la commission était financée par des contributions extra-budgétaires. Donc, c'est les États membres qui fournissaient l'argent. Et les Nations Unies ont contribué en envoyant un fonctionnaire du département de l'information, bilingue de préférence, pour être responsable des médias pour la commission à Paris jusqu'à ce que la commission finisse ce rapport, le rapport Pérez de Cuellar pour la culture et le développement. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire sa connaissance et c'est comme ça que je suis arrivé à travailler avec lui.
Alors justement, c'était un travail un peu atypique par rapport au parcours que vous aviez auparavant avec le département de l'information des Nations Unies. Vous parliez d'un homme réservé, plein d'humour. Comment ont été vos premiers contacts avec lui? C'est, on le rappelle, l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Ça ne devait pas être quand même très facile de converser, de travailler au quotidien avec quelqu'un qui avait occupé d'aussi hautes fonctions?
Non, dès le début, on a eu un rapport très facile. Et à Paris, je dois dire qu'il y avait une espèce de complicité du fait que nous étions tous les deux des anciens de la maison, comme il disait. Car tous les autres membres de cette commission, je veux dire par là les fonctionnaires qui travaillaient pour la commission, qui établissaient le rapport, étaient des fonctionnaires de l'UNESCO. Monsieur Pérez de Cuellar et moi-même, nous étions les seuls onusiens. Donc il y a eu une espèce de solidarité et de complicité entre nous dès le départ. Ça a été relativement facile. En plus, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui assez souvent sur les discours qu'il faisait, pas dans le cadre de la commission, mais des discours qu'il donnait, car il était souvent invité à des conférences internationales où il prononçait des discours sur des questions de politique étrangère et sur les Nations Unies, bien entendu. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur des questions politiques également. Donc à la limite, il n'y avait pas une énorme différence entre le travail que je faisais précédemment dans le cadre du département et celui que j'ai été appelé à faire avec lui.
Donc est-ce que c'était au quotidien des relations privilégiées? Vous n'étiez que deux à travailler ensemble ou...
Ah non, on était, la commission était composée de 7 ou 8 fonctionnaires de l'UNESCO. Moi, étant responsable des médias, je m'occupais essentiellement des contacts avec les journalistes pour leur faire comprendre exactement ce que faisait la commission. Je rédigeais des articles aussi pour des journaux français ou francophones, également sur la commission. Je m'occupais aussi de l'organisation des conférences de presse que M. Pérez de Cuellar était amené à donner. Et donc, je rédigeais aussi ses discours.
Type de relation avec un homme qui, on le rappelle, est né en 1920, qui était un diplomate de carrière, qui était quelqu'un, on pourrait dire aujourd'hui, d'une autre époque. Vous avez parlé de son caractère réservé, mais en même temps de possibilité de communiquer. Est-ce que c'était un type de relation un peu vieille école ou est-ce que pour vous, c'était juste représentatif d'une époque ?
Écoutez, sur le plan strictement du travail, c'était une personne de l'époque contemporaine, si vous voulez. Il était tout à fait au fait de ce qui se passait dans le monde. Il se tenait très informé. Et d'ailleurs, peu de temps après, il est parti dans son pays, au Pérou, pour faire une campagne présidentielle, pour se présenter aux élections présidentielles dans son pays. Et comme vous le savez, par la suite, après la fin des travaux de la commission, il a été ambassadeur de son pays à Paris et aussi le représentant du Pérou à l'UNESCO. Donc c'était quelqu'un qui se tenait tout à fait au courant de ce qui se passait à l'époque dont on parle, 1993 à 1997. Pour ce qui est de son comportement en dehors du travail, c'était quelqu'un d'extrêmement élégant, d'extrêmement raffiné, d'extrêmement cultivé, et qui avait un hobby que très peu de gens connaissaient, c'était la collection de montres. C'était quelqu'un qui était passionné de montres. Et il avait ses horlogers un petit peu partout dans le monde, et chaque fois que l'occasion se présentait, il allait faire une visite pour trouver l'oiseau rare, si vous voulez, sa collection.
Aujourd'hui, on parle des 50 ans de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Tout diplomate à l'époque se devait de pouvoir parler couramment le français. Je rappelle qu'il était péruvien, donc il maîtrisait bien sûr l'espagnol et l'anglais. Quel était son rapport avec la langue de Molière ?
Il le parlait parfaitement bien. Sa première femme a été française. Son français était parfait. Les mauvaises langues disaient même qu'il parlait mieux le français que l'espagnol, car il avait passé beaucoup plus de temps, en fait, à l'étranger, et il avait passé pas mal de temps en France, alors qu'à Lima, il a fini ses études, et puis après, il n'est plus jamais véritablement revenu, jusqu'à ce qu'il se présente aux élections présidentielles, en fait. Donc, il le parlait très, très bien.
Concernant la fameuse commission, vous dites que la commission pour la culture et le développement a été carrément rebaptisée commission Pérez de Cuéllar. Quels ont été les résultats, quels ont été donc les bénéfices, si on peut dire, de cette commission?
Le résultat est l'établissement d'un rapport que M. Pérez de Cuéllar a présenté à l'Assemblée générale en 1995. Sur les liens entre la culture et le développement. D'ailleurs, la commission a eu l'occasion de se balader un petit peu sur les 5 continents pour voir un petit peu comment spécifiquement les questions liées à la culture et au développement s'agençaient ou ne s'agençaient pas selon le continent et les pays. Et certaines de ces dispositions, si vous voulez, ont été adoptées par les travaux de l'UNESCO sur ces questions-là.
Donc deux dernières questions, Pierre-Fabien, concernant d'abord vos relations après 1997, lorsque vous avez quitté vos fonctions auprès de la Commission pour la culture et le développement. Est-ce que vous êtes resté en contact avec Javier Pérez de Cuéllar?
Oui, je suis resté en contact avec lui jusqu'à son retour à Lima. Il est resté quelques années à Paris, encore une fois, parce qu'il a été ambassadeur là-bas et il a travaillé à l'UNESCO. Et lorsque ses fonctions se sont terminées à l'UNESCO, il me semble qu'il est parti un an à Lima tout en gardant son domicile à Paris. Il est allé à Lima comme premier ministre dans un cabinet intérimaire jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé au Pérou. C'était en temps de crise. Donc ils l'ont appelé, il a été Premier ministre pendant 7 ou 8 mois. Ensuite il est rentré à Paris, il y est resté, me semble-t-il, encore 6 mois. Et après, il est rentré définitivement à Lima. Oui, j'ai gardé le contact avec lui jusqu'à il y a 3 ans, lorsque il a été un petit peu souffrant, il a été malade, il a été victime d'une crise cardiaque. Et après ça, non, j'ai plus de contact avec lui.
Dernière question concernant justement l'annonce de son décès. Qu'est-ce que vous avez éprouvé? Qu'est-ce que finalement ce décès, ce départ vous interpelle aujourd'hui?
Ce que j'ai éprouvé, en fait, personnellement, c'est une grande tristesse et beaucoup de nostalgie pour ces 4 années, merveilleuses années passées ensemble, si je peux dire, car j'en ai gardé d'excellents souvenirs, aussi bien sur le plan professionnel que, en fait, surtout sur le plan humain. C'était quelqu'un d'extrêmement humain et de gentil, et travailler avec lui dans le quotidien, c'était vraiment un privilège que je n'ai jamais eu par la suite, ni avant d'ailleurs. C'est une grande satisfaction pour moi, personnellement et professionnellement. Et bon, il a vécu 100 ans, c'est merveilleux, il a fait un parcours extraordinaire, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter à nous aussi.
Pierre-Fabien, merci. Donc je rappelle que vous êtes un ancien fonctionnaire du département de l'information des Nations Unies et que vous avez très bien connu Pérez de Cuéllar de 93 à 97 en tant que responsable des médias auprès donc de la Commission pour la culture et le développement, commission que Javier Pérez de Cuéllar présidait. Merci.
Merci à vous.
C'est avec Pierre-Fabien, ancien fonctionnaire de l'information à l'ONU, que se referme ce podcast Escale, un magazine préparé et présenté par Jérôme Longuet avec la collaboration de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet notre podcast hebdomadaire, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info, ainsi que sur d'autres plateformes et médias sociaux, notamment Facebook et Twitter. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.